Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cet amphithéâtre. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Nous sommes ensemble pour une heure et demie. En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde qui est, comme vous le savez, consacrée à la place de l'information dans notre quotidien, je dirais plutôt la désinformation, avec cette question à l'heure des fake news de plus en plus fréquents. Peut-on, doit-on réguler la lutte contre la désinformation? Alors, cette table ronde est organisée en partenariat avec l'AGEF, l'Association des journalistes économiques et financiers que j'ai l'honneur de présider. Je présente rapidement Emmanuel Pouilly, je suis journaliste à France Info. Et donc, je préside cette association qui est l'une des plus anciennes associations de journalistes français. Et je peux vous dire que combien cette question sur la lutte contre la désinformation est omniprésente dans nos travaux, dans nos discussions, dans nos réunions de bureaux, Internet et réseaux sociaux capables du meilleur comme du pire, nous y sommes aussi confrontés, le pire en général, le doute, lui-même laissant la place à une somme de fantasmes, de manipulations en tout genre, pire même aggraver les méconnaissances sur plein de sujets. Alors c'est vrai que nous avons l'habitude de dire, et d'ailleurs à la suite peut-être, ou même précédemment, Madame de l'ancien ministre de la Culture qui disait les premiers remparts contre la désinformation et la manipulation de l'information restent les journalistes et les médias eux-mêmes. Nous en sommes évidemment conscients, mais face aux nouveaux enjeux, est-ce qu'une simple, je dirais, code de bonne conduite, un simple code de bonne conduite peut suffire? Faut-il au contraire réguler la lutte contre la désinformation? Si oui, comment et jusqu'où? Et peut-on réguler tout en simplement respectant la liberté d'expression et la pluralité des médias? Donc ce sont toutes ces questions que nous allons aborder ensemble, avec nos invités d'abord, et puis ensuite, vous le savez, c'est la tradition de ces journées très intéressantes économiques de Lyon, où le public, c'est une rencontre interactive, donc vous aurez la parole bien sûr, il suffira de poser vos questions, on va vous indiquer un numéro de téléphone, un 07, vous poserez vos questions qui seront centralisées sur une tablette, j'essaierai de les synthétiser dans la dernière partie de notre débat. Je vous présente rapidement nos intervenants. Madame Françoise Benamou, professeure de sciences économiques à l'Université Paris 13, spécialiste de la culture, de l'information et des médias. Françoise Benamou, vous êtes membre du Cercle des économistes. Vous êtes également membre de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, on dit le gendarme des télécoms. À votre gauche, Cécile Paoli. Cécile Paoli, professeure documentaliste. J'insiste sur le terme, c'est important, on va voir pourquoi. Donc, professeur documentaliste au collège Jean Lursas à Cher dans les Yvelines. Vous travaillez, madame, ce trésor que représente le monde scolaire. Vous êtes très nombreux ici à le représenter. Nos collèges, nos lycées, vous formez les jeunes sur la bonne pratique des médias et des réseaux sociaux. À votre gauche, madame Johanna, alors il y a une petite erreur sur le nom, je rectifie, c'est Johanna Manolescu-Goujot, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en Informatique et automatique, professeur à Polytechnique, et vous travaillez avec les équipes du Décodex du Monde. Vous développez notamment des outils informatiques pour vérifier les faits. Alors là, il va falloir vous expliquer comment ça marche. En tout cas, c'est tout un programme. Et puis, Guillaume Rotti est également avec nous. Guillaume Rotti, porte-parole de la Commission européenne à Paris. Vous êtes ingénieur civil de l'École des mines de Paris. Vous avez été consultant en stratégie au cabinet McKinsey. Et vous représentez donc la Commission européenne à Paris depuis 2014. Et puis, je tiens à excuser Samuel Laurent, qui malheureusement est dans le TGV, son TGV est bloqué pour des raisons différentes et inhérentes à malheureusement la vie de la SNCF, totalement indépendante de sa volonté d'ailleurs. Donc, si tout va bien, Samuel Laurent nous rejoint avant la fin de cette table ronde, mais rien n'est moins sûr. Alors, je devais commencer justement avec lui, mais je vais me tourner vers Johanna Manolescu-Goujot, je rappelle donc de l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Alors, vous n'allez pas vous substituer à Samuel, mais comme vous travaillez ensemble, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement de quoi il s'agit? Les décodeurs, vous les connaissez vraiment sur le bout des doigts ou des ongles, je dirais. Comment fonctionnent-ils et comment vous travaillez avec eux?
Bonjour. Donc, effectivement, j'ai le plaisir depuis 4 ans maintenant d'avoir un projet collaboratif qui est financé par l'Agence nationale de la recherche avec l'équipe des décodeurs du monde et avec 4 autres équipes de collègues informaticiens. Je vais vous en dire un peu plus. Alors, les décodeurs sont, pour faire rapide, l'équipe de fact-checking du monde. Il s'agit d'une équipe assez petite, assez resserrée. Ils sont une douzaine de personnes au grand maximum. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont un spectre de compétences qui va de journalisme, tout simplement, parce qu'ils sont journalistes par formation, la majorité d'entre eux, jusqu'aux hackers, programmeurs, informaticiens. Il y a des infographistes, mais il y a aussi quelques personnes dans l'équipe dont les compétences sont tout à fait celles d'un ingénieur informaticien débrouillard qui peut utiliser plein de choses et qui peut expérimenter avec plein de techno. Je me réjouis du fait qu'une de leurs embauches est due au projet dans lequel on les a entraînés. Je vais vous en dire peut-être davantage dans mon intervention. Ce que je voudrais aussi faire remarquer au sujet des codeurs, c'est que je trouve remarquable chez eux d'avoir mis dès le début de la création de leur, on va dire, petit sous-groupe au sein du monde, cette idée de décryptage, décodage, explication de la réalité. Nous vivons dans une société moderne qui est une société complexe avec des mécanismes qui sont multiples et qui sont superposés, et l'économie, c'est loin d'être ce qui est le plus simple à comprendre. Et ce sur quoi ils insistent beaucoup, c'est qu'il ne s'agit pas juste de vérifier ou de fact-checker quelque chose, vérifier si c'est vrai ou faux, mais de décrypter, d'expliquer, de donner du contexte. Parce qu'il y a pas mal de choses dont la compréhension nécessite qu'on donne des détails du contexte. Et je vais vous dire un peu plus avant l'intervention, les outils informatiques qu'on essaie de mettre en place pour aider à cela.
Alors justement, les outils informatiques, là on passe dans votre partie, je dirais, puisque votre travail directement avec les décodeurs est de trouver les outils informatiques qui peuvent réellement permettre de vérifier les faits. Comment ça fonctionne exactement? On a un peu de mal à comprendre comment des algorithmes peuvent rétablir la vérité.
En fait, donc, disclosure, hein, si je ne l'ai pas assez dit, je suis l'informaticien dans la salle. Donc, je suis chercheur en informatique depuis pas mal de temps maintenant dans l'Institut de recherche en informatique automatique à Saclay. Donc, je suis basée... Merci. Je suis basée aussi dans le laboratoire d'informatique de l'École Polytechnique où je donne des cours. Et en fait, mon domaine en principe, ce sont les bases de données. Et quand les gens entendent ça, ils me disent « Ah, je sais, c'est Excel. » Je dis « Non, c'est pas tout à fait Excel. » Alors Oracle, non. Oracle non plus. Donc, ce qu'il faut savoir sur les bases de données, c'est que c'est une technologie qui est très très mature, qui est absolument omniprésente dans toute société moderne. Il n'y a qu'à penser aux comptes bancaires qui sont gérés par des systèmes informatisés, et ça depuis très très longtemps. Vous en avez pour chaque badge, pour chaque billet d'avion, pour chaque billet de train. J'ai un collègue américain qui disait « Est-ce que les bases de données sont importantes ?» Mais juste essayez de quitter cette ville sans les bases de données. Juste essayez de vous en aller d'ici. Vous ne pourrez pas, votre billet d'avion ne serait pas reconnu, votre billet de train n'existe pas, votre réservation n'existe pas, vous ne pouvez pas payer l'essence. Donc, les bases de données sont une technologie qui est complètement banalisée, on va dire absolument omniprésente, mais il reste toujours des sujets sur lesquels nous faisons de la recherche, des sujets qui ne sont pas complètement résolus. Donc, ma recherche notamment, depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, est autour des bases de données distribuées et des données du web. Et je vous ai mis une image de notre laboratoire, nouveau labo dans le campus de Polytechnique où nous travaillons sur cela. Et pendant ma carrière, depuis on va dire une petite dizaine d'années, j'ai été enthousiasmée par le mouvement Open Data ou données ouvertes. Ah, il y a des données, on va y aller. Et donc les données ouvertes, comme vous savez, sont des données qui sont libres de droit, libres d'usage. Et une grande partie des données ouvertes de qualité qui sont disponibles aujourd'hui sont des données statistiques. Les données statistiques accumulées au niveau national ou alors au niveau des organisations internationales, qui sont des données pour lesquelles nous avons déjà payé une fois avec l'argent de nos impôts et pour lesquelles donc on ne fait pas payer une deuxième fois lorsque ces données peuvent être examinées par tout un chacun pour encore savoir comment va la société, est-ce que ça va bien, est-ce que nous comprenons comment ça avance. Et j'ai été assez fascinée par des données qui ont commencé à être publiées en France, notamment il y avait les données publiées par Etalab, qui est un organisme auprès du Premier ministre au niveau de sa création. Je n'ai plus trop suivi, mais ils ont publié des données qui permettaient de se faire une idée de plein de choses. Là, vous avez des données de 2010 que des confrères journalistes ont mis en forme dans les infographies. Et vous avez les anciennes régions de France, dont la surface est distordue, on va dire, en relation avec le PIB de la région. Ça, c'est le graphique de gauche. Donc la surface de chaque région est tordue en fonction de sa contribution au PIB, et à droite en fonction de l'agriculture biologique. Voilà. Donc vous avez d'un côté la carte de la France, vous avez des données statistiques qui sont disponibles parce que dans un pays évolué et bien organisé comme la France, ces données ont été accumulées, soignées, calculées, publiées, et vous pouvez vous faire très rapidement une idée de qu'est-ce qui se passe, comment les choses se développent, qu'est-ce qui se passe où en France. Je me suis dit, il y a quand même une énorme mine d'informations. On a toutes ces données, tout ce qu'on pourrait faire avec. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben, on pourrait se poser des questions à propos de déclarations qui peuvent être faites par des personnalités publiques. Nous avons entendu des choses du style « on met un pognon de dingue dans les minima sociaux, les gens qui naissent pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres ils restent pauvres ». Donc on a ce genre d'affirmations qui sont faites par des personnes qui se font citer, qui donnent un avis sur la vie publique ou les politiques publiques en disant « voilà, je m'appuie sur un constat ». Et on se dit, mais pourtant, il doit y avoir quelque part des données sur lesquelles je devrais pouvoir me faire une idée si ça c'est vrai ou c'est faux. Et en fait, il se trouve que, comme ont remarqué les journalistes du Monde pas plus loin qu'hier, il existe évidemment des données de l'INSEE qui peuvent donner le chiffre exact du pourcentage de la population qui dispose de la moitié du revenu médian. Donc là, tout à coup, c'est plus précis que pauvre. Pauvre, c'est vite dit. Là, on a des choses un peu plus précises et on voit que la France se situe quelque part. On fait moins bien que la Finlande et les Pays-Bas, mais nettement mieux que l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas si vite dit que ça qu'en France, on ne s'en sort pas. Et les données existent, vous voyez. Donc, ça, c'est un des très grands atouts de la France qui a des données statistiques centralisées, publiques depuis Colbert presque. Peut-être moins publiques à l'époque de Colbert, mais quand même des données statistiques de qualité. Et bien sûr, vous avez aussi des éléments supplémentaires dans l'étude de l'INSEE qui montrent que le pourcentage de la population qui a connu la pauvreté ces 12 derniers mois n'est pas très grand en France, ce qui veut dire que même s'il y a des personnes qui passent par des épisodes de pauvreté, ils n'y sont pas confinés. Ils ont des voies de sortie, il y a une certaine mobilité, on va dire, en sens où il n'y a pas vraiment une malédiction persistante. Donc vous voyez, il y a un grand chemin à parcourir entre un propos qui peut être rapide et qui simplifie et une vérification qui devrait au minimum s'appuyer sur des données de référence. Et avec des idées du style, les bases de données sont partout, elles peuvent tout faire, on a des outils techniques, nous avons démarré il y a 3-4 ans maintenant un projet de recherche, qui est un projet de recherche collaborative financé par l'Agence nationale de recherche, dans lequel on a voulu poser un regard d'informaticien sur le problème de fact-checking, en se disant, voilà, les journalistes ont besoin d'accéder à des données, trouver des données, vérifier ce genre d'affirmations, parce que ce sont les affirmations que l'on vérifie, les faits, ils sont là de toute façon. Et donc, j'ai eu cette idée, j'ai enrôlé des collègues qui travaillent notamment à l'Université de Lyon, à l'Université de Paris-Sud, à Rennes, et nous sommes allés voir les journalistes et décodeurs. Et donc Samuel Laurent et son équipe ont été très réceptifs, et donc nous avons démarré ce projet, dans lequel on part de l'observation que le fact-checking journalistique est de plus en plus visible dans le paysage médiatique, notamment parce que tout un chacun maintenant voit ses canaux de communication disponibles, multipliés, et tout le monde peut lancer à peu près n'importe quoi. Et on s'est dit aussi, il y avait des efforts qui ont commencé un petit peu aux États-Unis, mais après un peu partout dans le monde, d'automatiser ce travail de vérification par l'informatique. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chercheur? Ben, plusieurs choses. Déjà, articuler une compréhension scientifique pour nous, informaticiens. Quels sont les problèmes informatiques soulevés par le fact-checking? Quels sont les outils qui existent déjà aujourd'hui qui peuvent être employés, on va dire, directement, s'il y en a? Quelles sont les méthodes ou les algorithmes qu'il faudrait développer à ex nihilo pour faire face aux problèmes qu'ils doivent résoudre? Et puis, bien sûr, implémenter tout cela, réaliser des logiciels, valider leur applicabilité et aussi quelque chose sur lequel nous avons travaillé par plusieurs efforts, c'est de faire ce qu'on appelle un corpus de référence, constituer des jeux de données sur lesquels on puisse soit faire des fact-checking supplémentaires par d'autres dans le futur, soit des nouvelles avec leur fact-check réalisé à la main, contre lesquels par la suite des collègues qui essayent de faire cela automatiquement de façon algorithmique puissent se vérifier pour dire effectivement j'ai eu le même résultat que l'opérateur humain.
Ce que vous êtes en train de me dire en fait, Johanna, c'est qu'il y a quand même la patte humaine, parce que quand vous nous présentiez au tout début, on disait voilà, c'est une série d'algorithmes qui va définir si une information est vraie, véridique, importante, non importante, etc. Il y a quand même la patte humaine derrière, finalement.
Oui, évidemment. Donc, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, c'est très bien de le préciser. Ce que nous visons à construire sont des outils. Le journalisme reste une tâche qui est une tâche des humains pour les humains. Et donc, il faut que ce qu'on écrit donne envie à lire, il faut que le choix de l'angle, du moment, du sujet soit bien fait. Donc, nous, tout ce qu'on visait à faire, c'est de dire il y a mieux comme recherche de données que copier des choses d'un Excel à un autre. Donc, on essaie de fournir des outils informatiques qui puissent répondre aux questions qui leur sont posées. Et après, effectivement, libre aux journalistes de décider quelles questions ils doivent poser.
Merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant avec des exemples précis. Johanna, vous restez avec nous, bien sûr, parce qu'on aura l'occasion d'en débattre. Je demanderai tout à l'heure comment sont perçus ces outils. Vous aviez quelque chose à ajouter
oui,
rapidement
je voulais juste,
vous on pourrait revenir après de toute façon.
Allez-y. J'aurais juste voulu montrer ça, qui représente en gros notre compréhension de l'opération de fact-checking, on va dire de perspective informatique. On commence par un contenu média d'habitude, qui est l'endroit où l'affirmation a été faite. Et de ce contenu média, il faut extraire l'affirmation. Donc là, il y a une première famille d'algorithmes qui peuvent intervenir pour extraire, par exemple, d'un discours, la phrase ou le fait qui mériterait d'être vérifié. Après, de notre point de vue, ce fait-là est souvent accompagné par un contexte. Donc ce que j'appelle contexte média, c'est typiquement qui a dit ça sur un réseau social, qui est cette personne, quel est son réseau social, quel est le moment, quel est le contexte dans lequel cette affirmation a été faite. Et typiquement, il va y avoir des humains qui vont être soit des journalistes, soit des personnes volontaires qui travaillent peut-être dans un mode crowdsourcing, soit des experts d'un domaine, qui vont employer des outils de vérification, qui sont nombreux, il y a plusieurs versions, on va dire, informatiques. Et surtout, ce qui m'intéresse moi, ce sur quoi je voudrais insister, ils travaillent avec l'aide d'une source de référence. Si vous n'avez pas une source de référence, il ne peut pas y avoir de vérification. À la limite, il peut y avoir une détection de fausses nouvelles si vous avez un autre moyen de savoir que celui qui l'a publié est un menteur invétéré. Mais dans le fact-checking, il y a toujours une source d'information contre laquelle on vérifie. Et juste pour finir, le résultat d'un fact-checking est très souvent une source d'information pour les vérifications suivantes. Donc c'est quelque chose que les journalistes font beaucoup, que les décodeurs font notamment. Ils ont publié une centaine, je pense, plusieurs centaines de fact-check réalisés à la main avec l'analyse de référence et structuré dans un format informatique qui est accessible par les machines. Donc il y a pas mal d'efforts, juste pour finir, dans la direction de représenter ces processus de fact-checking journalistique comme des processus d'analyse de données dans lesquels interviennent toujours des humains et dans lesquels l'informatique peut aider à beaucoup de niveaux successifs. Et je vais juste vous diriger vers le site web de notre projet où nous avons mis pas mal de choses là-dessus.
Et puis, bien sûr, nous pourrons vous poser toutes les questions ouvertes tout à l'heure. Merci beaucoup, Johanna Manolescu-Goujot. Françoise Benabou, je le disais, économiste spécialiste de la culture, de l'information et des médias. Vous avez un micro à votre gauche. Petit rappel des faits, début octobre, l'Assemblée nationale a voté en nouvelle lecture les propositions de loi controversées, on va dire, sur la manipulation de l'information en période électorale. Alors, est-ce qu'on doit réellement réguler la lutte contre la désinformation? Est-ce que c'est réellement possible?
Alors, merci Emmanuel. Alors, la régulation de la désinformation, si tant est qu'elle soit possible, elle renvoie déjà à deux choses. Elle renvoie d'abord à un questionnement. De quoi on parle? C'est quoi la désinformation? Je crois que c'est un petit peu important de revenir juste un instant dessus. Et puis à deux paradoxes sur lesquels je viendrai un peu plus tard. Alors, définir la désinformation, c'est déjà embarrassant. On a des définitions, on en a par exemple sur le site du ministère de la Culture, toute allégation ou imputation d'un fait inexact ou trompeuse. Ça vise évidemment les plateformes, pas les journalistes qui sont déjà soumis à des lois. Et l'idée, c'est de réguler cela. Mais faut-il encore repérer les fausses informations, les images détournées, etc. Alors la désinformation, c'est un sujet, si on essaye d'aller un petit peu plus loin, qui existe depuis très longtemps. Hein, dans son livre « Petite histoire de la désinformation », Vladimir Volkov rappelle que celle-ci date du VIe siècle. Avant Jésus-Christ, je suis sûre que vous ne le saviez pas, Emmanuel. Et c'était un général chinois qui s'appelle Sun Tzu qui en donnait les principes et expliquait que celle-ci est une technique de guerre efficace parce que l'art suprême de la guerre, c'est justement de soumettre l'ennemi sans le combattre. Et comment le soumettre sans le combattre? via de la désinformation, il n'employait évidemment pas le terme, mais il disait par exemple discréditer ce qu'il y a de bien dans le pays adverse. On voit bien où on peut en venir. Alors il y a évidemment toute l'histoire jalonnée d'histoires de désinformation, le suicide de Roger Salengro sous les insultes de la presse d'extrême droite en 1936, etc. Qu'est-ce qui change avec le numérique et qui fait que le sujet mérite régulation sans doute? C'est un triple changement. Dans le temps, dans l'espace et dans la densité. Dans le temps, la rapidité de circulation des messages, l'extrême rapidité, et j'y reviendrai. Dans l'espace, c'est l'échelle globale où ça peut circuler, avec la rapidité que j'évoquais avant, et au point de vue de la densité, la surinformation qui vient vers l'auditeur et qui fait qu'il est en situation, je dirais presque, d'excès d'information, et du coup il va fuir d'une certaine manière l'information pour se focaliser sur le plus visible, ce qui tourne le plus en boucle. Et voilà, la messe est dite à ce moment-là. Alors, il y a une étude du MIT qui est très intéressante là-dessus, qui montre que les fausses informations circulent 6 fois plus vite que les vraies informations. Vous prenez un article de journal et pas un journal confidentiel, pour atteindre 1500 personnes, il lui faut 6 fois plus de temps que ce qui relève des fausses informations. Alors on voit bien où est la question. Alors cela m'amène maintenant à soulever 2 paradoxes pour le régulateur s'il souhaite intervenir par rapport à la désinformation. Et pour comprendre ces 2 paradoxes, je crois qu'il faut passer par le fonctionnement des fake news et notamment le fonctionnement économique. Nous sommes au GECO, parlons un peu d'économie. Qu'est-ce qui se passe? Le lecteur recherche en général, le lecteur de journal ou d'information, la confirmation de ses croyances, celles qui existent déjà. On est sur Internet, et c'est bien connu dans des logiques d'affinité. On parlera aussi
de faire en sorte que les Français, les citoyens, s'intéressent beaucoup plus à la chose économique qu'ils ne le faisaient avant. Tout le monde est un acteur économique ou actrice économique et sociale en se levant le matin. On a un travail, on n'en a pas. On a une vie sociale, on a une vie économique et on cherche à comprendre comment ça fonctionne. Et il n'est pas rare maintenant de voir des médias vraiment grand public, très très grand public, parler de la politique monétaire américaine, ce qu'on n'aurait pas fait il y a une dizaine d'années. Parce que les gens souhaitent comprendre. Ça rejoint totalement ce que vous disiez, Johanna, c'est que derrière la politique monétaire américaine, pourtant on cherche à comprendre, on sait que ça a un impact sur les taux d'intérêt en Europe, en France, et en taux d'intérêt, quand on parle de taux d'intérêt, il y a le crédit immobilier, il y a l'épargne, aussi petite soit-elle, et tout ça, effectivement, mérite d'être bien expliqué pour éviter tous les fantasmes, et c'est là que je vous rejoins. J'adhère totalement à vos propos en tant que journaliste, en tout cas. Cécile Pauline, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais rebondir sur cette question finalement d'accès de tous à l'information et à la compréhension d'un certain nombre de phénomènes. J'ai été interpellée tout à l'heure dans l'intervention de Françoise Benhamou par la notion de biais de confirmation qui consiste à adhérer à quelque chose qui est une information qui correspond déjà à notre système de valeurs et à la partager donc dans notre cercle de connaissances qui va globalement partager le même système de valeurs que le nôtre, et ce qui peut expliquer donc cette circulation extrêmement rapide d'informations fausses. Et je suis convaincue que ce travail que modestement nous menons dans les établissements scolaires devrait être mené à l'échelle de toute une population, parce que typiquement un phénomène psychologique comme le biais de confirmation, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à comprendre, mais qui mérite d'être explicité. Et je pense que de régulation au niveau des plateformes de partage, il faudrait aussi, en complément, et c'est déjà le cas à travers donc, tous les sites de Debunking, continuer et approfondir la communication à destination de la population, de la société civile dans son ensemble, pour que nous accédions tous à des mécanismes de vérification individuelle.
François, est-ce que vous avez une réaction également à ce que vous disiez tout à l'heure?
Juste une petite réaction à un point, juste un point, parce que sur le reste, je suis absolument d'accord. Il faut faire attention dans les réponses aux sondages où les gens disent qu'ils ont confiance dans les médias traditionnels. Parce que je me rappelle un sondage auprès des Français sur la chaîne qu'ils préfèrent. Et la chaîne qu'ils préfèrent, c'était Arte. Et Arte, quand il y a 3% d'audience, c'est un pic. Et donc, on voit bien le décalage qu'il peut y avoir entre la réponse, si vous voulez, spontanée, parce que c'est la chaîne la plus patrimoniale, la plus culturelle, la plus vertueuse, etc., et la réalité des pratiques.
Ça fait chic, ça fait bien, en gros, pour faire court et simple. Guillaume Autry. Peut-être un dernier mot que je n'ai pas mentionné, mais qui est important. Je suis complètement d'accord que la question d'une information de qualité est payante et doit être rémunérée, quelle que soit la manière dont elle est rémunérée et le canal. Et c'est aussi une action qu'on a essayé de mener au niveau européen, où je ne sais pas si vous avez entendu parler de la directive copyright, où on a proposé, ça a été voté par le PE et c'est le Parlement européen, et c'est en négociation entre les États membres et le Parlement maintenant, de changer un peu la chaîne de valeur et de créer des droits voisins pour le contenu d'information pour assurer justement que les plateformes ne puissent pas utiliser du contenu produit par des journalistes et obtenir tous les revenus publicitaires liés à ce contenu sans rémunérer les auteurs qui sont les journalistes. Donc c'est un peu essayer d'étendre le droit d'auteur au contenu journalistique. Après, ça pose plein de questions en termes de compliqués, en termes de liberté et choses comme ça, mais en tout cas, sur le principe, on est vraiment... derrière cette idée-là, d'assurer une meilleure rémunération des producteurs de contenu d'information. Et un dernier point aussi, parce que ce n'est pas un débat qu'on a trop mentionné, je ne voudrais pas que les gens quittent la salle en se disant « Ah, mais c'est évident, il faut réguler les fake news, c'est tellement facile », c'est infernal de réguler les fake news. C'est-à-dire, si on arrive au moment où on doit dire qu'un juge doit décider ce qui est vrai, ce qui est faux, pourquoi, et qu'est-ce qui se passe, on arrive dans des sociétés où on peut basculer d'un côté ou de l'autre assez facilement. Et donc c'est pour ça qu'on a une approche, par exemple, complètement différente sur l'interdiction des contenus terroristes ou des incitations à la haine en ligne, où là, on interdit les plateformes de diffuser ces contenus, on leur dit, par la loi, elles doivent être retirées au bout d'une heure, parce que c'est assez simple de voir qu'est-ce qu'est un contenu terroriste ou qu'est-ce qu'est une incitation à la haine, même s'il y a plein de jurisprudence derrière, mais c'est en tout cas plus simple qu'une fake news. Et donc ce débat du... comment je définis ce qui est vrai, ce qui est faux, comment je définis ce qu'est l'information, est un problème très délicat dans lequel, voilà, je ne suis pas sûr que nos sociétés ont vraiment très envie d'aller et de sauter.
D'autant que les textes eux-mêmes sont assez imprécis, puisque si un juge, vraiment, à partir du moment où le juge intervient, il faut que l'information soit manifestement fausse, diffusée de manière délibérée, massive et artificielle. Donc qui va objectivement traiter de cette question, juger le juge en référé à 48 heures pour trancher? C'est tout le contraire du, justement, le métier de journaliste qui est pour vérifier l'information, on recoupe les informations et on ne la délivre pas sur une antenne, dans un journal, avant que cette information ne soit recoupée. Je vais vous citer l'exemple de France Info. France Info a mis en place une agence interne pour vérifier les informations qui circulent. Tant que l'agence interne Radio France, France Info en l'occurrence, n'a pas validé, n'a pas recoupé les sources, eh bien, je peux vous dire qu'on a ordre de ne pas passer cette information. C'est un rempart vraiment et qui nous rend crédible même auprès de nos sources, puisque les sources nous disent, vous êtes sérieux, ok, on va entretenir de bonnes relations. Voilà, pas forcément vous livrer les scoops, mais vous aurez des informations que d'autres n'auront peut-être pas parce qu'on sait que vous validez l'information. Est-ce qu'on est d'accord à peu près sur... Johanna, vous souhaitiez...
Donc je voudrais juste rebondir rapidement. C'est excellent que vous avez cette agence de vérification en interne, mais je pense que vérifier ses sources et vérifier avant publication, ça fait partie du métier de journaliste. Donc là,
c'est rare.
De l'autre côté, je vais me permettre de vous rappeler George Orwell, parce que moi j'ai grandi dans un pays communiste. Il faut qu'on vous donne le droit que 2 et 2 font 4. Si vous arrivez à obtenir que 2 et 2 font 4, le reste va suivre. Donc nous ne pouvons pas abandonner une sorte de vérité commune, un mécanisme pour l'établir. Et fort heureusement, il y a en France un droit de la presse, on peut savoir ce qu'était une diffamation et ce qui ne l'est pas. Donc une procédure pour établir une vérité commune, au moins sur certains aspects, doit rester et existe. Donc on ne peut pas non plus dire « mes fake news sont votre vérité ». Enfin, je perçois la difficulté de légiférer, on va dire, de façon universelle, mais on n'est pas non plus complètement démunis. Voilà.
Réaction ? Yo ?
Nous, on a lancé à la représentation de la Commission une
un mini-exercice de fact-checking dans le cadre des élections présidentielles, parce que l'Europe était un sujet important, et on entendait plein de bêtises sur l'Europe, et donc on voulait pouvoir répondre à ça et apporter des faits et des éléments là-dessus. Déjà, ça nous a confrontés à plein de problèmes auxquels on ne s'attendait pas, on était un peu naïfs. Première chose, nous, en tant que Commission européenne, il y a certaines personnes, je peux leur raconter ce que je veux, ils ne me croiront jamais. Ne serait-ce que parce que je représente les institutions européennes, donc je peux dire ce que je veux avec tous les textes, des choses comme ça, c'est pas grave, peu importe, ma parole n'a pas de valeur. Donc ça, c'est assez important aussi comme phénomène. Et on s'est rendu compte aussi que, dans les indicateurs que vous avez mis sur votre slide, il y a c'est faux, c'est plutôt vrai et c'est vrai. Et en fait, toute la difficulté, c'est que quand c'est plutôt faux et plutôt vrai, où est-ce qu'on met la limite ? Moi, je me souviens, on réfléchissait, à un moment, je voulais dire, on ne peut pas dire que c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a plein d'éléments par rapport à cette affirmation qu'il faut prendre en compte. Et ce n'est pas évident et ce n'est pas noir ou blanc. Donc, le problème avec la législation, je suis d'accord, il y a des éléments qui sont vérifiables et qu'on doit vérifier scientifiquement, qui peuvent être attestés comme étant vrais, mais l'essentiel de la vie, elle est un peu dans un flou, en fait. Et gérer ce flou de manière juridique, je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, mais en tout cas, il faut bien se rendre compte que ça pose beaucoup de questions en termes de liberté d'expression et aussi en termes de débat démocratique.
Alors, il y a une question de moyens, une question d'outils, qui s'adresse peut-être à vous, Ioan Manolescu. Grâce à quels moyens informatiques en particulier pourrait-on identifier une fake news et le grand public en tout cas, avec quels moyens informatiques à sa disposition en particulier pourrait-il identifier une fake news et comment pourrait-il le signaler? Là, on a les deux phases de l'expérience.
Donc, je pense que pour répondre, commencer par le plus simple. Si la façon de signaler, d'habitude, il faut signaler au publieur ou alors à la plateforme. Donc, je pense que toutes les plateformes se sont dotées d'un petit guichet où on peut dire ceci est un spam, ceci est une rumeur, ceci est une intoxication, c'est malveillant, etc. Donc, les plateformes ont des dispositifs où un humain peut faire le travail qu'ils ne font pas alors qu'ils auraient les moyens pour signaler effectivement des contenus indésirables. Ça permet aussi de dire, pour déterminer si une publication est massive, donc un des critères que vous citiez là pour le juge d'instruction, du côté de la plateforme, si vous avez un guichet où vous leur demandez combien de fois ça a été publié, et si ça a été publié 200 000 fois, ou si c'est publié par une source qui a publié 2000 posts en 2 heures, là vous avez votre critère. Là il n'y a pas d'erreur, c'est pas quelqu'un qui s'est planté, là c'est très 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 clair. Donc les plateformes sur lesquelles le contenu circule ont, elles, beaucoup de moyens de soit identifier le contenu comme étant quelque chose qui est déjà connu, faux, répertorié dans une base en tant que tel, soit détecter des indicateurs suspects. Par exemple, cet auteur commence à poster exactement au début du jour ouvrable en Russie et il s'intéresse qu'à la politique américaine. Donc ça existe, c'est des pics d'activité quand les personnes viennent devant leur bureau, ils prennent leur café, ils commencent à poster. Et donc on peut faire ce genre de profil et on peut comparer. Soit il y a un travail assez intéressant que j'ai vu qui se base complètement sur l'analyse du texte, du langage utilisé dans les fake news. Souvent ce sont des écrits faits pour attirer l'attention, pour être épatant, et donc on se retrouve avec des titres pleins de points d'exclamation, Michel Obama couche avec Eric Holder, Obama est furieux, points d'exclamation, etc. Et donc, il y a des collègues qui ont utilisé un programme d'apprentissage automatique. Ils ont entraîné d'un côté avec des textes médias produits par les grands médias américains standards, et de l'autre côté avec un bon corpus de fake news. Et en fait, ils ont obtenu un classifier qui fonctionne uniquement à base du style. Donc, juste sur la base du style, il vous donne une recommandation, enfin un avis, que ceci est faux ou pas. Des outils complètement grand public, en fait, il n'y a rien sur étagère. En fait, mon petit diagramme en boîte que je vous ai montré là est instancié par un tas de prototypes plus ou moins recherche dans le monde. Et ce sont des systèmes complexes dans lesquels on a mis bout à bout plein de technos. Donc, il n'y a pas, on va dire, une balle magique. Mais il y a pas mal de guides écrits par les grands médias qui sont publiés sur leur site en quelques étapes, comment vérifier si ce que vous voyez est faux ou pas. Donc il y a par exemple des indications sur comment utiliser la recherche d'images inversées qui vient d'être mentionnée, ou vérifier les sources, vérifier l'URL, vérifier l'adresse. C'est le genre d'outils qui existe aujourd'hui. Effectivement, nous ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de faire des outils qui nécessitent quand même une compétence informatique qu'on pourrait donner à des journalistes Personnellement, je n'ai pas quelque chose que je pourrais tout de suite donner au plan public. Techniquement, un des obstacles qu'il y a pour nous, c'est qu'il nous faut nous baser toujours sur une base de référence. Et l'information de référence, elle est très fragmentée. C'est-à-dire qu'il y a un tas de choses que je vais trouver dans la base de l'INSEE, mais je ne vais pas tout trouver. Il y a du signal faible. Si on s'intéresse à des collectivités locales, à des événements qui ne sont pas assez visibles ou importants pour qu'il y ait une base de référence convenue par tous, alors je vais avoir du mal à trouver la source de référence. Il y a pas mal de challenges techniques.
Ouais. Alors, il y a une question directe. Est-ce que des exemples précis de fake news, est-ce qu'il y a des exemples précis de fake news qui ont nui au processus de démocratie quelque part? C'est une question, je dirais, à 1000 euros, là, pour le coup, qui revient.
Un exemple assez célèbre, mais qui n'est pas non plus une fake news complète, c'est les bus qui ont circulé pendant la campagne du Brexit en Angleterre, où la campagne, donc les défendeurs, ceux qui étaient pour le Brexit, ont mis sur des grands bus, en votant pour le Brexit, vous permettez d'économiser 400 millions de pounds par semaine, je crois même, qui seront, qui bénéficient à la sécurité sociale anglaise. C'était complètement faux d'une certaine manière, ça a eu beaucoup d'impact, ces bus, c'était complètement faux parce que le chiffre n'était pas du tout le bon. C'était complètement faux parce que rien ne dit que cet argent qui était en fait la contribution que le Royaume-Uni verse au budget européen chaque année, s'il ne la versait plus, ils n'allaient pas forcément la verser à la sécurité sociale anglaise, mais ils allaient plutôt la verser à leur agriculture, à toutes les choses que finance le budget européen aujourd'hui. Mais il y avait une partie de vrai qui était que oui, si les Anglais sortaient de l'Union européenne, eh ben, ils allaient arrêter de payer leur contribution au budget européen. Donc c'est un de ces exemples où je ne sais pas si, dans le cadre d'une réglementation, ça aurait pu être attaqué. Et d'ailleurs, dans le débat démocratique anglais, tous les partisans du Remain, donc ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, n'ont pas arrêté de répéter sur les différents plateaux télé, dans les différentes interviews, ce chiffre est faux, ça ne marche pas du tout, mais ça a eu un impact psychologique assez fort pendant la campagne.
Françoise Benamou.
Oui, par rapport à ce genre de choses, il n'y a pas lieu de... de faire intervenir le juge, bien entendu, parce que sinon, dans tous les débats télévisés, au moment des élections, quand on s'envoie à la figure des chiffres qui sont les trois quarts du temps tous faux, il y aurait beaucoup à faire. En revanche, c'est vrai qu'il y a sans doute un type d'information, des informations dures, peut-être de fausses informations qui peuvent être combattues, et on a déjà les outils juridiques pour le faire. Par exemple, je ne sais pas, les tours du 11 septembre sont tombés parce que c'est Israël qui a envoyé le Mossad ou je ne sais pas trop quoi, ce genre de choses qui ont beaucoup, beaucoup circulé. Des choses comme ça, on en a plein. Donc on a des outils pour lutter contre cela. La question très très difficile, c'est effectivement tout ce continent mou d'une information qui circule, qui n'est pas vraiment vraie, mais pas vraiment fausse, mais plutôt fausse, mais dans le fond, ça dépend de qui l'a dit et dans quel contexte, et puis les experts se trompent quelquefois, etc. Et c'est là qu'on a une difficulté et que le juge en dernier ressort, c'est finalement l'audience. Et c'est pour ça que je pense que la qualité des messages qui sont transmis par les médias, entre guillemets, traditionnels, ou des nouveaux médias, d'ailleurs, qui apparaissent, mais qui font un vrai travail de médias, avec un vrai travail de fond, a un sens.
Où est la frontière entre lutte contre la désinformation et la censure? Alors ça, c'est une vaste question aussi. Cécile Paoli, comment vous abordez, par exemple, la question si un de vos élèves... qu'est-ce qu'on peut imaginer comme démarche pour répondre à cette question?
Je pense que effectivement la frontière elle est très très fine. Moi c'est ce que je répondrais à un élève, c'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental. Et à titre personnel, moi effectivement, je pense que je préfère une société où on dit et où on diffuse des bêtises à une société où on a le droit de rien dire et rien diffuser. Je pense que vraiment ce qu'il faut, c'est
un peu paradoxal, ça, non?
Ben, c'est, je ne sais pas si c'est pas... Voilà, c'est ça. C'est que tout est question de curseur et de curseur aussi, à la fois à l'échelle de la société, mais aussi de curseur individuel. C'est-à-dire que quand une société se débrouille pour armer ses citoyens intellectuellement, et ça passe par de gros efforts, effectivement, mis sur l'éducation. On est tous moins sensibles à tout ça. Alors effectivement, il ne faut pas être naïf non plus, je sais bien que quand on parle de désinformation, on parle aussi d'ingérence d'autres pays dans la politique. Mais il faut être très 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 prudent. Je pense que vraiment, par exemple, on pourrait dire, oui, la presse traditionnelle ne gagne pas assez d'argent, subvention, voilà. Sauf que là, dans ce cas-là, on a la Pravda, c'est pas possible. Ouais.
Est-ce que sur le plan économique, on a une réelle volonté d'y aller, Françoise Benamou? Est-ce que ça ne pose pas de problème de relation entre politique et monde, justement, économique? Dans le politique, risque de sanctionner le monde économique. Est-ce que ces grandes entreprises qui sont quand même... ce sont ces entreprises qui emploient, ce sont ces entreprises qui font de la croissance. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mesure de rétorsion quelque part à attendre de ces entreprises?
Je ne sais pas si vous faites allusion au monde de l'Internet. Je pense que le politique rêve de sanctionner l'économie. Là, il aurait une victoire politique sur l'économie. Mais ce que je crois extrêmement difficile, c'est effectivement qu'il faut jouer sur plusieurs terrains. C'est-à-dire de l'autorégulation, quelquefois taper sur la table, et je trouve qu'il y a une chose que je n'ai pas envie de laisser passer, je pense qu'on peut subventionner des médias sans avoir la Pravda pour autant. On a un service public audiovisuel, où on a même des médias privés qui peuvent être subventionnés d'une manière ou d'une autre, pas directement pour les informations précises qu'ils publient, mais par exemple pour les aider à passer au numérique ou pour les aider à mieux distribuer la presse dans l'ensemble du pays. Et c'est ainsi qu'on subventionne indirectement la presse via les tarifs postaux. Donc ça, je crois que ça existe et que ça mérite de continuer d'exister. Ce qu'il faut, c'est en même temps créer des incitations à l'autorégulation d'une part, et puis d'autre part, avoir quand même, moi je maintiens ça, une régulation face à ce monopole informationnel que constituent les GAFA. Ça, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Alors, on ne va pas aller regarder, de toute façon, il n'y arriverait pas, on a tous les contenus qui transitent sur les GAFA, mais par exemple, exiger un certain nombre de règles de bonne conduite, et ça, c'est faisable, par exemple, fermeture de tous les comptes bidons ou tous les comptes qui permettent de faire transiter des informations venues, par exemple, de hackers russes, etc. Donc il y a des choses qu'on peut faire quand même, et on peut s'en donner les moyens.
Alors justement, question, pourquoi ne pas mettre en lumière directement les publications fake news sur les plateformes réseaux sociaux pour sensibiliser plutôt que de les censurer? C'est-à-dire on les mettra en avant pour les dénoncer, les montrer du doigt et dire attention, n'y allez pas. C'est peut-être prendre le problème à l'envers, je ne sais pas. Guillaume Rotti, sur peut-être un mot de conclusion, la Commission européenne, on a vu, travaille beaucoup, réfléchit beaucoup, les pays discutent beaucoup. Est-ce qu'on a quand même l'espoir d'arriver en termes de calendrier à une échéance particulière?
C'est pas seulement qu'on réfléchit et qu'on travaille beaucoup, c'est vrai, enfin, j'espère, mais on avance beaucoup, et je pense que c'est assez récent, je mentionne le code de pratique qui a été sur lequel on s'est mis d'accord, c'était fin septembre. On a reçu les engagements de chacun des membres, donc on a reçu une lettre de Facebook, de Google, de Twitter, et co. mi-octobre. Ils sont en train de mettre en place une liste de bonnes pratiques qui a été aussi définie dans le cadre du code. Donc on va dire qu'on a mis en place le schéma d'action pour lutter contre la désinformation. Maintenant la grande question c'est est-ce que, un, ils vont jouer le jeu, et s'ils jouent le jeu, est-ce que ça va marcher? Enfin, c'est des bonnes idées sur le papier. Mais les fake news, c'est un phénomène très récent, et je pense que c'est très ancien, je suis d'accord sur le principe, mais avec l'amplification sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur le processus démocratique, c'est un sujet qui est sur la table depuis fin 2016, c'est les élections américaines qui ont mis ça sur la table, donc c'est quand même, on est allé assez vite là-dessus, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne aussi, il faut savoir reconnaître, être un peu humble vis-à-vis de ça, on est encore très incertain, c'est aussi pour ça qu'on développe beaucoup la partie recherche sur le phénomène, utilisation des données des plateformes pour comprendre mieux ce qui se passe et comment ça marche. Et à côté de ça, je le mentionnais, vous avez, je crois que c'était vous qui mentionnez qu'il y avait un certain paradoxe à dire qu'on va légiférer, mais en même temps ça prend beaucoup de temps si ça ne marche pas avant les élections européennes. Et les élections européennes ont lieu en mai, donc on risque d'avoir un problème. C'est vrai, et donc c'est aussi pour ça qu'en parallèle, on travaille avec les différents États membres pour préparer les élections européennes et avoir un peu des mécanismes d'urgence, notamment en cas de cyberattaque externe, on n'a pas envie qu'il y ait des pays tiers qui essayent d'intervenir dans la campagne, et donc là on se met d'accord pour, entre les différents États membres pour se protéger de campagnes d'influence vraiment massives et qui ne viennent pas de chez nous.
Merci beaucoup, merci infiniment, merci à vous pour votre écoute, merci à nos intervenants, et puis chers élèves, chers professeurs, au travail, il y en a, et on a vu que les structures sont là pour vous aider. Merci beaucoup.